Europe 1.
La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant une heure, nous allons découvrir les acteurs de la société qui font bouger les lignes. La France bouge, ici c'est simple, on trouve des solutions et elles sont françaises. Ensemble, on en parle avec Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. Les pharmaciens en première ligne pour la vaccination contre le Covid. Tiens, ont-ils les doses? Peuvent-ils accélérer cette vaccination? Et si on parlait aussi autotests, est-ce qu'ils sont enfin arrivés dans les pharmacies? Est-ce que l'on s'en empare? Plus globalement, les pharmaciens sont au centre du parcours de soins avec cette crise. Et on parle de tout cela jusqu'à 14h avec Jean Fab, c'est le patron de PharmaVie, un des plus gros réseaux d'officines de pharmacie de France.
À la une, en effet, la course à la vaccination. Comment ne pas gaspiller la moindre dose de vaccin? Un Français a eu l'ingénieuse idée de lancer la start-up Covidlist. Son cofondateur nous dira comment.
Alors eux, ils font partie de ceux qui fabriquent notamment les gels hydroalcooliques. Les laboratoires Gilbert, créés en 1904, et ce sera notre saga du jour dans La France bouge.
Chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur vient nous présenter son projet dans La France bouge. Le pitch du jour, LNZ Pocket, un e-shop dédié aux 7-15 ans pour les accompagner à une consommation plus responsable. Ce projet va-t-il vous convaincre? Réponse 13h45.
Et puis, demain au travail. Tiens, allez, si on se faisait un petit escape game virtuel tous ensemble là. C'est ce que fait Logitrade pour garder la convivialité entre salariés en télétravail. On vous dit tout vers 13h50.
Eh oui, c'est ça, la France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Mais oui, bien sûr qu'elle bouge cette France, et j'espère qu'on arrive à vous le montrer chaque jour hein, sur Europe 1 entre 13h et 14h. Alors tiens, aujourd'hui, comment les pharmaciens sont revenus hein, au centre de la filière santé avec toutes ces nouvelles activités qui sont les leurs en ce moment? On en parle avec notre témoin du jour jusqu'à 14h.
Bonjour Jean Fabre.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de PharmaVie. PharmaVie, c'est un réseau de 600 pharmacies dans toute la France. Jean Fabre, depuis un an, la crise a renforcé votre rôle. Hein, elle vous a amené à développer de nouvelles missions. On peut le dire, vous êtes en première ligne. Tiens, on va commencer par le vaccin. Depuis le 12 avril, la vaccination s'est ouverte en pharmacie. Comment ça marche ?
Comment ça marche? Oui, effectivement, c'est le sujet du moment et je crois que les pharmaciens sont montés en première ligne dans ce sujet-là qui devient un sujet sociétal, un sujet important. Donc comment ça marche? C'est un processus qui est assez compliqué puisque vous comprenez bien qu'aujourd'hui la vaccination, les doses disponibles sont comptées et il faut chaque semaine gérer les vaccins, gérer au plus près des patients la mise à disposition de ces vaccins.
Mais moi, si je rentre dans une pharmacie aujourd'hui, je ne peux pas, il y a des critères. Donc quand vous dites que c'est complexe, c'est pour toute cette logistique.
Tout à fait. Et aujourd'hui, le pharmacien est rentré un peu plus tardivement dans la vaccination à partir du mois de février. Et depuis le mois de février, vous pouvez, pour les patients éligibles, être vacciné en pharmacie si vous remplissez les critères d'éligibilité. Et nous, au sein du groupement PharmaVie, dès le début, nous nous sommes préparés à cette
possibilité.
Vaccination.
Mmh. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire, on rentre avec un papier, une ordonnance du médecin, on dit, voilà, moi je suis éligible, est-ce que vous pouvez me vacciner? Est-ce que je dois prendre rendez-vous? Comment ça fonctionne?
Alors, justement, le principe de la pharmacie, c'est que la pharmacie, normalement, vous pouvez voir votre pharmacien sans rendez-vous, il est ouvert 6 jours sur 7. Et derrière ça, vous avez la possibilité de vérifier avec lui si vous êtes éligible à la vaccination et si vous faites partie de ces catégories qui sont ciblées par les autorités aujourd'hui et qui, en pharmacie, puisqu'aujourd'hui nous n'avons que l'AstraZeneca qui est disponible en pharmacie, de pouvoir être vacciné par ce vaccin-là.
Ce que vous nous dites, Jean Fabre, c'est que vous êtes à flux tendu. Il y a une liste d'attente énorme et il n'y a pas de marge pour le moment pour vacciner plus en pharmacie à cause d'un manque de doses. C'est ça, on a bien compris?
Évidemment, c'est évident qu'aujourd'hui, chaque semaine, nous avons des attributions de doses qui correspondent aux besoins supposés des pharmaciens et en fonction des quantités disponibles, nous allouons chaque semaine à nos pharmaciens les doses nécessaires pour la semaine en question.
Vous l'avez dit, vous vaccinez à l'AstraZeneca. Pas grand monde, semble-t-il, semble en vouloir en ce moment. Malgré tout, vous êtes à flux tendu. Vous nous dites, Non, les gens, ils veulent être vaccinés. En tout cas, ceux qui viennent en pharmacie veulent être vaccinés et ils prennent de l'AstraZeneca parce que c'est tout ce qu'on a.
Je vais vous dire, je pense que c'est là, et vous l'avez dit en introduction, le rôle du pharmacien est important. Mmh. Aujourd'hui, la vaccination, il y a des doutes, il y a des commentaires, il y a des positions qui sont prises. Mais aujourd'hui, le vrai sujet, c'est établir cette relation de confiance. Et aujourd'hui, le pharmacien est un acteur de proximité. Et chez nous, les pharmaviens sont déjà formés pour avoir ce dialogue et répondre à toutes les questions. Et donc, libérer, je dirais, la parole et permettre à chacun des patients de juger en son âme et conscience si il doit
se vacciner. Mais vous ne sentez pas aujourd'hui, vous n'avez pas de remontée, hein, je rappelle, vous avez plus de 600 pharmacies dans votre réseau, vous n'avez pas de remontée de confrères qui vous diraient « Oula, ça devient tendu, la liste d'attente est en train de se réduire » parce qu'on voit qu'il y a une inquiétude quant au vaccin AstraZeneca.
Alors, il est facile de faire des généralités, mais aujourd'hui, j'ai plus de demandes de flacons, d'ampoules et de vaccins additionnels que le contraire. Et aujourd'hui, dès qu'il y a des doses disponibles, on a un processus qui permet d'appeler un patient qui serait éligible et de venir se faire vacciner pour éviter la perte de doses. Donc, au niveau de la pharmacie, à ce jour, il n'y a pas de problème de ce niveau-là.
Mais comment ça se passe quand vous dites on est rapprovisionné en doses? C'est quoi? C'est le lundi, vous recevez un carton ou avec des doses? Pardon, mais comment ça s'organise? On a du mal à imaginer.
C'est un process très régulé, très réglementé. D'abord, la spécificité des vaccins l'exige, transport, conservation. Chaque semaine, le pharmacien et le médecin décident, demandent les quantités qui seraient souhaitables de disposer par rapport aux listes potentielles de patients éventuellement ciblés. Derrière ça, ces listes sont colligées toutes les semaines et le mercredi, ces listes sont closes et elles sont remontées, escaladées au niveau du ministère qui, selon les quantités disponibles, nous allouent par pharmacie le nombre de flacons correspondants.
Et en ce moment, vous êtes à peu près correctement approvisionné par AstraZeneca ou vous faites partie de tous ceux qui disent c'est au petit bonheur la chance et souvent c'est plus de la malchance que de la chance, hein.
Oh, je ne peux pas dire cela. Aujourd'hui, nous sommes approvisionnés en proportion et certaines semaines, nous avons des quantités importantes d'AstraZeneca.
Donc, c'est un petit bonheur, la chance.
Donc, ça dépend aussi de l'approvisionnement du laboratoire.
On va continuer à parler de cette campagne de vaccination avec vous, Jean Fabre, président de PharmaVie, et du fait que vous êtes revenu au centre de ce parcours de santé. Vous restez avec nous dans La France Bouge.
Elle se bouge, la France, et elle vaccine. On le voit aujourd'hui avec notre invité du jour, Jean Fabre, qui est le patron de PharmaVie, qui est l'un des plus gros rassemblements d'officines de pharmacie en France, un peu plus de 600 pharmacies dans ce groupement.
Et d'un côté, on a des personnes qui ne demandent qu'à se faire vacciner. De l'autre, des doses jetées en fin de journée dans les centres de vaccination, faute d'inscrits ou de rendez-vous non honorés. Ainsi, un Français a eu cette idée géniale. Bonjour Martin Daniel.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci à vous, vous êtes le cofondateur de Covidlist. Covidlist, c'est un petit miracle, nous, on trouve, à la rédaction d'Europe 1.
Vous êtes inscrit,
Olivier? Bien sûr, je me suis inscrite. C'est une simple page web, une simple page d'inscription. On peut dire que c'est un site de rencontre entre des doses non utilisées, des candidats vaccins?
Vous pouvez dire que c'est le Tinder de la dose.
Mais oui, pourquoi pas?
Non, mais voilà, en fait, de façon très simple, c'est une plateforme de mise en relation gratuite, sécurisée, simple, qui permet à des centres de vaccination de tout type, des vaccinodromes, des pharmacies, des cabinets médicaux, des centres de vaccination intermédiaires, d'être mis en relation avec des volontaires autour d'eux et dans les critères d'âge qui sont définis par le calendrier vaccinal du gouvernement.
Alors, comment ça marche concrètement? Je vais prendre mon exemple. Je me suis inscrit, j'ai mis mon nom, j'ai mis mon prénom, j'ai mis mon adresse. Et l'idée, c'est que si jamais il y a une dose disponible pas trop loin de mon adresse, il y a une chance que je sois appelé et je dois y aller dans l'heure. C'est ça l'idée?
Voilà. Donc, alors l'idée, c'est surtout de travailler avec les centres de vaccination. Donc vraiment, l'idée, c'est que les centres de vaccination ont accès, peuvent s'inscrire en 5 minutes sur covidlist.com/partenaire, et je les encourage tous à s'inscrire. Ils ont alors accès à une plateforme de recrutement, si vous voulez, de volontaires à la vaccination, qui est extrêmement simple, qui leur prend 15 secondes, dans lequel ils précisent, j'ai, disons, 10 doses de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, ce que vous voulez, une plage horaire, je veux des gens qui viennent entre 17h et 19h, je veux des gens qui aient au moins 60 ans, 65 ans, ce que vous voulez, un rayon d'action, c'est très important, 1 km, 2 km, 3 km autour de mon centre de vaccination, vous appuyez sur un bouton et notre système va contacter les personnes éligibles qui rentrent dans les critères que vous avez définis et va envoyer un SMS à chacune de ces personnes. On reçoit donc, côté volontaire, si vous êtes inscrit sur la plateforme, vous recevez un et que vous êtes éligible, vous recevez un SMS qui dit en gros bonne nouvelle, une dose de vaccin de type AstraZeneca, Pfizer, etc. est disponible. Cliquez ici et réservez votre vaccin.
Vous voudriez pas l'anonymiser au moment où on se dit que l'AstraZeneca n'a pas bonne presse, c'est-à-dire il y a une dose de vaccin disponible ?
Pardon ?
Vous voudriez pas anonymiser le nom du vaccin ? Qu'on ne sache pas finalement si en arrivant on va avoir du Pfizer, du Moderna ou de l'Astra ?
Non, alors vous savez, au contraire, je pense qu'il est important qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Donc lorsque vous recevez un SMS, il faut que vous sachiez le type de vaccin que vous allez avoir. Mais vous savez, on a un taux de remplissage, enfin en fait, on a un taux de succès sur AstraZeneca qui est en fait assez élevé. C'est-à-dire que nous, on parvient à remplir à peu près 60% des campagnes de vaccination AstraZeneca qui sont passées sur la plateforme. Donc on est au contraire un outil à destination, j'écoutais votre invité, notamment des pharmacies. Donc, il y a 130 pharmacies qui sont inscrites aujourd'hui sur notre plateforme et pour lesquelles on fait gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on a 40% de nos sondés disent économiser entre 30 et 1 heure, 30 minutes et 1 heure de temps par jour sur la gestion de leurs listes d'attente, simplement parce que Covid-List, c'est une solution automatique, simple, sécurisée pour aller chercher des volontaires à la vaccination, quel que soit le type de vaccin qu'on cherche à utiliser.
Martin Daniel, vous êtes le cofondateur de Covid-List. Vous nous avez dit que vous encouragez les centres de vaccination à s'inscrire. Combien de centres de vaccination, quelle est la proportion des centres de vaccination qui sont sur Covid-List aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on a 430 centres de vaccination partenaires qui sont inscrits sur notre plateforme. Comme je vous le disais, c'est de tout type. Donc on a vraiment des centres de vaccination très importants, des vaccinodromes et des petites officines, des cabinets médicaux. Donc on a vraiment tout le type. Ce qu'il faut bien voir, c'est la croissance de ces centres de vaccination. Plus de 100 inscrits dans les deux derniers jours. Et donc vraiment un bouche à oreille qui devient très important sur les sondages qu'on a pu réaliser au sein de nos centres de vaccination. 7 centres de vaccination sur 10 recommandent très chaleureusement Covid-List à leur réseau. Mmh. On est une initiative qui est très jeune. Hein. On fête aujourd'hui nos 3 semaines.
C'est formidable. Donc, c'est ça la France bouge.
Il faut bien comprendre qu'on est très très jeune, mais on a une croissance qui est vraiment très importante sur la partie des centres de vaccination parce qu'on résout un problème important pour eux.
Alors, pardon de ma question, mais vous gagnez votre vie en faisant ça ? Vous prenez une com quelque part ou c'est totalement gratuit ?
C'est totalement gratuit. On est un groupe de 70 citoyens et bénévoles qui faisons ça sur notre temps à côté de notre de nos vies, si je puis dire.
Vous faites quoi à côté, Martin Daniel, vous, si sans indiscrétion ?
Alors moi je suis ce qu'on appelle un data scientist, c'est-à-dire que mon métier c'est une sous-branche de la statistique et de l'ingénierie, et j'ai officié au sein de plateformes connues du grand public dans la Silicon Valley pendant plusieurs années. Mmh. Et j'ai quitté ce monde-là pour lancer une entreprise dans le climat, mais il faudra me réinviter.
Mais avec plaisir.
De ça.
Il ne faut pas nous dire ça, on va le faire. Jean Fabre, je rappelle que vous êtes le président de PharmaVie, un des plus gros réseaux de pharmacies en France, environ 600 pharmacies. Vous nous le disiez, vous avez votre propre système pour essayer d'écouler comme ça les dernières doses. La Covid-List, il faut s'inscrire dessus en plus, ça peut être un débouché supplémentaire.
Oui, vu comme sous cet angle-là, vous avez tout à fait raison. Et nous, chez PharmaVie, on a déjà, dès le début, mis en œuvre un système un peu similaire où chaque, je dirais, client, patient de la pharmacie attachée pouvait s'inscrire et peut être sur une liste d'attente et priorisé selon les critères d'éligibilité. Alors, toute proportion gardée, je ne parle qu'au niveau de mon réseau, mais nous, dès le début, nous étions préparés à cela, et notamment de planifier aussi, ce qui est important, les deuxièmes rendez-vous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a souvent une deuxième injection et qu'il faut la planifier dans le temps, et donc avoir déjà en tête les doses à réserver pour la deuxième vaccination, quand le temps sera venu de faire cette deuxième vaccination. Donc nous, chez PharmaVie, on a réellement anticipé ce projet, et je suis d'autant plus content d'entendre votre intervenant, parce que derrière ça, l'important, c'est de réconcilier, je dirais, les centres de vaccination, les pharmacies, et je pense qu'il y aurait probablement à y gagner, à avoir, je dirais, des interactions plus profondes. Et je suis convaincu, mais alors évidemment, je prends la paroisse, que dans la vaccination, il y a une relation de confiance qui est importante, et soit le médecin de famille ou le pharmacien est probablement l'acteur le mieux placé pour résoudre, je dirais, et répondre à toutes les questions.
Et oui, il est rassuré sur ses interrogations concernant aujourd'hui les différents vaccins. Martin Daniel, vous êtes le cofondateur de Covid-List. Vous nous l'avez dit, hein, c'est une initiative 100% citoyenne, mais est-ce que vous collaborez avec les autorités, par exemple avec le ministère de la Santé, les autorités de santé ?
Bien sûr, alors on est en contact très rapproché avec la Direction Générale de la Santé, avec lesquels j'étais en réunion il n'y a pas plus tard que 2 heures. On est en réunion vraiment toutes les plusieurs fois par semaine, et d'ailleurs je les remercie parce qu'ils ont beaucoup de chats à fouetter et ils nous consacrent du temps.
En même temps, vous êtes bien utile aussi pour eux.
Ouais, vous êtes une belle solution.
Bien sûr, mais je pense qu'il faut, on est aussi une solution, il faut rester humble, c'est-à-dire qu'on est une solution qui reste pour l'instant à une échelle plus petite, mais qui, si elle est massifiée et vraiment développée sur l'ensemble du territoire peut avoir un impact important. Je vous rappelle que, en fait, l'intérêt de notre solution, c'est un gain de temps important. Et je rejoins vraiment votre invité, c'est-à-dire que nous, on veut vraiment aider le terrain. Ça a toujours été notre mantra depuis le début, c'est-à-dire que nous, on veut vraiment aider les gens qui sont au plus près pour qu'ils passent moins de temps sur des questions administratives et plus de temps sur la vaccination et prendre soin des patients. Donc ça, on est vraiment très, très soucieux de ce sujet-là. Et on est, autre point, pardon, tout à fait complémentaire des solutions qui existent.
Vous êtes le cofondateur de Covid List, Martin Daniel. Merci d'avoir répondu à nos questions dans La France Bouge. On est complètement fan de votre solution. Je rappelle que vous êtes un collectif de 70 citoyens et bénévoles. Et c'est vous qui avez mis en place Covid List.
Et Jean Fabre, le patron de Pharmavie, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
La Caisse d'épargne vous présente La France Bouge. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et comme chaque jour, on est ravis d'être avec vous, avec Elisabeth, dans La France Bouge, en direct de 13h à 14h sur Europe 1. Aujourd'hui, on parle du rôle des pharmaciens dans cette crise avec Jean Fabre, qui est le président de Pharmavie, l'un des plus gros réseaux de pharmacie de France. Depuis le début de cette émission, on s'est arrêté sur la vaccination. On a vu que si vous aviez plus de doses, vous pourriez vacciner encore plus, surtout que les publics là vont s'élargir dans les heures à venir, notamment puisqu'on va avoir les publics de plus de 55 ans du secteur privé. On va avoir la liste, logiquement, dans l'après-midi, de tous ceux qui vont pouvoir se faire vacciner. Mais parlons maintenant, tiens, des autotests. Parce que ça aussi, depuis maintenant quelques jours, ils sont arrivés dans vos pharmacies. Déjà, au démarrage, quand ils sont arrivés, là, il y a une dizaine de jours, c'était plus compliqué à trouver que le collier d'immunité de Koh-Lanta. Ça y est, on les a.
Alors, les autotests, en ce qui concerne le groupement dont je m'occupe, et puis plus généralement des pharmacies que je livre au titre de Phoenix Pharmant, mon répartiteur, oui, les autotests, il y en a, mais évidemment, il faut que vous sachiez deux choses. D'abord, que le décret de parution des autotests a été le week-end précédent, le lundi 12 avril, qui était le démarrage. Et donc,
Il faut dire qu'une fois de plus, on a fait un effet d'annonce avant d'avoir la matière.
Non, la matière était là, mais les conditions n'étaient pas établies pour pouvoir, je dirais, avoir les quantités, les prix aussi qui sont réglementés pour les autotests. D'ailleurs, et ce qui est important de savoir aussi, c'est que le gouvernement a décidé aussi de faire une prise en charge pour certaines catégories de population pour les autotests. Et ceci a contribué peut-être à retarder la sortie du décret. Mais ça y est, ils y sont. Et dès le 12 avril après-midi, allez, on va dire le 13, pour certains, les autotests étaient dans toutes les bonnes pharmacies du groupement sans aucun problème.
Donc maintenant, il y a des autotests. La demande est là. Ça s'écoule bien.
Pour être tout à fait transparent avec vous, je n'ai pas le recul suffisant.
Non, mais quand même, vous avez
pour avoir. Ce qu'il y a, c'est que nous en sortons des quantités importantes. Donc, nous réapprovisionnons en permanence et nous sommes, on peut le dire, à flux tendu.
Mais qui achète les autotests? C'est pour qui?
Alors, je pense qu'il faut reprendre cela dans une stratégie plus globale. Aujourd'hui, le dépistage est quelque chose de clé et d'important. Vous l'avez tous compris. Je pense qu'il n'est pas question de s'arrêter là. L'autotest, c'est, je dirais, la possibilité de faire déjà un prélèvement plus simple, mais néanmoins dont il faut respecter, je dirais, le suivi, de façon à pouvoir déjà savoir si on est porteur ou pas de la Covid.
Mais c'est assez compliqué à faire. On l'a testé avec Elisabeth, pour être honnête, pour préparer cette émission. Il faut effectivement d'abord se rentrer le petit coton-tige dans le nez. Alors ça fait beaucoup moins mal que pour ceux qui ont eu la chance de faire un PCR. Après, il faut que vous mettiez 6 gouttes d'un petit liquide dans une petite fiole. Après, vous mettez votre coton-tige dedans. Vous remettez ça un peu comme si on faisait un test de grossesse. Est-ce qu'on est sûr de bien le faire déjà? Moi, c'est la question que j'ai eue en le faisant.
C'est une très bonne question. C'est d'ailleurs pourquoi les autotests sont pour l'instant et aujourd'hui délivrés en pharmacie, parce que les pharmaciens ont, je dirais, le devoir de réellement expliquer comment utiliser cet autotest dans des bonnes conditions. Il faut aussi que l'endroit soit propre, il faut se désinfecter, se laver les mains. Donc il y a tout un protocole à suivre, mais je dirais, c'est comme le premier meuble Ikea que vous montez. Ça paraît un peu compliqué au début, et puis quand vous en achetez plusieurs, vous arrivez après à maîtriser, je dirais, le sujet.
on va aussi de plus en plus compter sur vous, puisque maintenant, par exemple, les tests antigéniques que l'on fait en pharmacie, il va y avoir un petit QR code sur ce que vous allez nous donner comme papier quand on sort de là, puisque ça va être intégré à tous anti-Covid, et ce qui va déterminer une sorte de passe sanitaire, puisqu'on aura également notre vaccination. Là, la vaccination, il faut un peu attendre, c'est à partir, je crois, du 29 avril qu'on aura les différents systèmes sur tous anti-Covid, qui est cette application sur nos téléphones portables. Ça va dans le bon sens, d'après vous, ce genre de choses, Jean Fabre ?
Alors, moi, en tant que professionnel de santé, je dirais ça va dans le bon sens. Aujourd'hui, le pire, ce serait de baisser la garde. Donc, avoir, je dirais, une sorte de contrainte pour aller se faire vacciner ou alors, je dirais, de se faire tester avant de voyager ou d'aller, je dirais, sortir dans des endroits qui vont peut-être se réouvrir très bientôt, je pense que c'est du bon sens. Je crois qu'on a besoin, on a réellement besoin de continuer dans cette voie-là. Alors, évidemment, il faudrait que tout le monde soit puisse se faire vacciner. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, puisque aujourd'hui, les doses ne sont pas en proportion. Mais je crois qu'il est indispensable, c'est notre devoir, je dirais, de professionnels de santé, de dire ne baissons pas la garde, continuons. Et si le pass est un objectif, eh bien, prenons-le comme tel.
Professionnels de santé, oui, mais votre métier, il est aussi en train d'évoluer considérablement. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait sans arrêt appel à vous en ce moment. Les autotests, les tests antigéniques, il a fallu vous organiser, mettre des petites cabanes à l'extérieur des pharmacies. Les masques, il y a encore un an, à cette heure-ci, vous ne pouviez pas les vendre, c'était au compte-gouttes. On vous sollicite énormément. Est-ce que vous, en conséquence, vous allez aussi vous réorganiser ? Est-ce que vous allez recruter ? Est-ce que vous allez changer les formations ?
Non, mais aujourd'hui, nous n'avons pas attendu, je dirais, la crise. La crise, elle a été un révélateur. Elle a exacerbé, je dirais, ce phénomène. Mais nous, déjà, nous avions anticipé que le rôle du pharmacien, c'est un entrepreneur, mais un acteur de santé qui a un rôle pivotal, notamment dans le réseau. Pourquoi ? D'abord, la capillarité du réseau de pharmacie est incroyable. Vous couvrez tout le territoire et on peut dire que chaque Français a accès à une pharmacie et donc un début de prise en charge de soins de santé. C'est remarquable. Par contre, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le pharmacien, il doit se former. Et nous avons mis en place des gros programmes de formation pour conseiller, éduquer. La vaccination, c'était un phénomène déclencheur. Rappelez-vous, la grippe, il n'y a que 2 ans que les pharmaciens vaccinent.
Mais là, ça va s'ajouter avec la grippe,
tout
le Covid, etc.
Mais ils ont été capables de vacciner 3 700 000 personnes en quelques semaines. Imaginez pour la Covid, si les pharmaciens étaient complètement mobilisés, sollicités, quel que soit le type de vaccin, probablement avec leur relation de confiance qu'ils ont avec leurs patients, avec la combinaison des médecins.
Donc il faut ouvrir
je pense
encore plus.
Aurait une opportunité.
Donc il faut ouvrir encore plus, c'est ce que vous nous dites. Il faut aller au-delà de l'Astra, il faut aller sur tous les vaccins.
Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix d'ouvrir plus. Si le but atteint, c'est d'arriver à une sorte d'immunité collective à l'été.
Chaque jour dans La France Bouge, Jean Fabre, on se pose, on découvre l'histoire d'une marque, d'un produit, d'un endroit français qui ont traversé des générations. Aujourd'hui, on va vous emmener à Caen, à Hérouville-Saint-Clair, dans un laboratoire que vous connaissez bien dans le groupement Pharmavie. Un laboratoire qui possède des marques comme Algotherne ou surtout Bactidose. Un labo qui existe depuis 1904 et c'est une entreprise familiale.
Oui, une entreprise familiale 100% français avec plus de 600 salariés. Et c'est la saga du jour. Le laboratoire Gilbert, raconté aujourd'hui par notre médecin en chef, Quentin Paille.
Europe 1, la France bouge, la saga.
Le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique est devenu une habitude et parmi toutes les marques présentes sur le marché, il y en a une que vous connaissez peut-être, le Bactidose. Le Bactidose, ce sont les laboratoires Gilbert, mais ce n'est qu'une marque du groupe comme Algotherme, Arnicris ou Physiolac. L'aventure commence en 1904 dans le nord de la France. Pour soigner les corps aux pieds, les laboratoires Gilbert inventent un emplâtre à la feuille de saule. Cédric Batteur, directeur général des laboratoires Gilbert, est 4e génération à la tête de l'entreprise.
Monsieur Batteur, qui a développé au sein de son officine, donc dans le nord de la France, à Aubourdin, un produit appelé feuille de saule. C'est un emplâtre pour traiter les corps aux pieds à base d'acide salicylique et tiré donc des fameuses feuilles de l'arbre du saule, qui est connu justement pour ses propriétés.
Il a fallu une 60aine d'années pour passer du pharmacien au grand groupe industriel qui exporte à l'international. C'est Jacques Batteur, le fils du fondateur, qui donne au laboratoire Gilbert, à partir des années 1960, sa dimension actuelle.
C'est vraiment à partir de ces années 60 où on a donné un caractère industriel au laboratoire Gilbert, avec le développement ensuite qu'on en connaît. Mon grand-père est venu s'installer à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados. et a commencé en tant que pharmacien à produire en grande quantité ce premier produit historique issu des pharmacies Batteur. On fait à peu près un tiers de notre activité en dehors de nos frontières, l'objectif étant réellement d'internationaliser davantage notre activité et de passer à peu près à la moitié de nos productions, de notre activité en dehors des frontières.
Gel douche, savon, crème pour le visage, sérum, mais le produit incontournable de la marque et concerne les bébés, c'est le sérum physiologique. L'entreprise en vend 1,2 milliard de doses chaque année. Tous les produits des laboratoires Gilbert sont fabriqués en France, au sein des 6 usines, en Normandie et en Bretagne.
Il y a aussi une question, je dirais, de souveraineté, sans rentrer dans une logique un peu nationaliste, mais souveraineté, à savoir que c'est ce que nous a révélé notamment le premier confinement et la crise du Covid. On n'était pas dépendant de tiers et on était en mesure de s'organiser nous-mêmes face à une crise assez, assez soudaine, ce qui a, vérifié un peu la pertinence d'avoir ses propres outils de production, ses propres ateliers, ses propres équipes pour pouvoir produire et puis s'organiser en conséquence, quoi.
Au début de la crise, en 2020, la France est à l'arrêt, mais la production des laboratoires Gilbert se poursuit. Grâce aux 600 salariés du groupe, ils ont vendu cette année-là environ 10 millions de flacons de gel hydroalcoolique.
Et voilà, c'était la saga du jour racontée par Quentin Paillet de l'équipe de La France Bouge.
Jean Fab, vous êtes le président de Pharmavie. Vous restez avec nous. Place maintenant au pitch, un moment fort de l'émission. Vous allez mettre votre petite casquette de coach et vous allez conseiller un entrepreneur qui se lance.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on parle pharmacie hein, depuis le début de cette émission avec notre grand invité du jour, Jean Fab, qui est le président de Pharmavie, l'un des plus gros groupements de pharmacies de France, environ 600 pharmacies sur tout le territoire. Alors comme le disait Elisabeth, hein, vous allez mettre maintenant votre casquette de coach pour les trophées Europe 1 La France Bouge. Et nous avons aussi bien évidemment Nathalie Carré de la Chambre de Commerce et d'Industrie qui est avec nous. Elisabeth, place au pitch.
Allez, c'est parti. Bonjour Romain Perroux.
Bonjour.
Vous avez 34 ans, vous êtes Montpelliérain et c'est vous ça. Êtes le cofondateur de l'entreprise In The Pocket et vous avez fondé le site inthepoc.com, le premier e-commerce avec contrôle parental, service pour la famille. De quoi s'agit-il ? Vous allez nous dérouler votre pitch. Vous avez une minute.
C'est ça. Donc, on est parti d'un chiffre. 37% des enfants de moins de 12 ans ont consommé en ligne ces 12 derniers mois. Et donc, un constat, il n'y a pas d'outils à disposition des parents pour accompagner ces enfants, cette nouvelle génération, aux nouveaux modes de consommation, comme l'ont fait nos parents quand ils nous ont accompagnés en magasin. Donc, on a décidé de lancer In The Poc, le premier e-commerce avec contrôle parental et service à la famille. On s'est donné pour ça une mission, de pouvoir permettre aux parents de donner les clés aux enfants pour être des acteurs de leur découverte de la consommation de façon responsable, autonome et indépendante. Et pour cela, on s'appuie sur un e-commerce dont le contenu est adapté, dont l'offre est dédiée et dont l'environnement est sécurisé. Et trois services, un service de cagnotte qui permet à l'enfant de collecter et de payer en ligne sans limite d'âge. Un service de wishlist où il peut partager ses envies en fonction de ses idées. Et un service à la famille où chacun peut venir participer, même pour les moins digitalisés. Et donc l'avenir va s'écrire avec un plug and play et là on sera... le contrôle parental pour les e-commerçants.
Et ben voilà, moi je suis obligé de vous arrêter, je suis le méchant de la bande. Bravo en tout cas Romain Perroux pour ce pitch.
Oui, bravo pour votre pitch Romain. Je vous présente Nathalie Carré de la Chambre de Commerce et d'Industrie en charge de l'entrepreneuriat qui analyse, hein, qui épluche chaque jour nos candidatures, nos dossiers. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Romain, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors Nathalie, vous avez étudié In The Pocket, quelles sont les forces et les faiblesses ?
Alors après la liste de mariage, voici la liste préparée par les enfants, les ados et qu'on peut partager avec la famille, qu'on n'a plus qu'à utiliser pour acheter le bon cadeau. Alors ça, c'est une vraie épine dans le pied en moins à l'approche des anniversaires et de Noël. Et puis deuxième point fort, le fait de retrouver toutes les grandes marques qui plaisent aux enfants, aux ados, ça évite qu'ils soient à part par rapport à leurs copains. En revanche, il y a deux points améliorés autour du site. Alors, d'abord, il manque des informations sur la partie responsable et engagée. Par exemple, quand on va sur la page d'un produit Barbie, on a un moral score. Il faut expliquer ce que c'est et s'assurer qu'en plus que les infos soient cohérentes entre votre descriptif et le site moral score, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, quand on sélectionne vos marques engagées, il y a des marques dont, a priori, dans l'inconscient collectif en tout cas, on ne se dit pas qu'elles sont hyper responsables, donc ça demande explication. Et puis, ça manque de clarté dans le comment ça marche. Les vidéos entre celles pour les les parents et les enfants se contredisent sur la partie inscription. Et puis ensuite, c'est trop rapide pour bien comprendre. Expliquez bien qui inscrit l'enfant, qui invite la famille, comment se passe le contrôle parental, comment on sélectionne les produits fabriqués pour les marques engagées. Bref, c'est quoi la recette pour utiliser toutes les potentialités du site, donc à mettre en vidéo et puis par écrit pour vraiment faciliter l'achat.
Donc, mettre par écrit, faciliter l'achat. J'ai vu que vous étiez en train de prendre des notes. Hein. C'est oui. Formidable. Hein. Vous avez écouté religieusement Nathalie Carré. Que pouvez-vous lui répondre à ces remarques?
En fait, on est assez d'accord avec ça. C'est un site qui est encore jeune, hein, qui est en construction. On s'est lancé, il a été lancé début novembre. Donc, on est encore en construction. Donc, c'est pour ça qu'on prend tous les bons conseils. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut vraiment mettre l'enfant au centre du jeu, au centre du site. Et... permettre aux parents d'être le garant de sa démarche. Donc en fait, le parent, c'est lui qui va inscrire l'enfant, c'est lui qui va faire toute la démarche d'inviter les oncles, les tantes, les parrains, les marraines.
Et puisque vous n'avez pas précisé, qui est un point très important, les parents agissent vraiment avec un contrôle parental. Si par exemple, ils veulent que seuls les livres soient ouverts ou que 2-3 catégories, il n'y a que 2-3 catégories qui peuvent être ouvertes pour les enfants. C'est très contrôlé.
C'est ça, exactement. En fait, l'idée là, c'est d'avoir une démarche qui soit une démarche adaptée, non pas à l'âge, mais à l'autonomie de l'enfant. Et en fait, pour un parent qui aurait plusieurs enfants, on peut imaginer que suivant l'autonomie, on peut laisser une catégorie ouverte pour un enfant, et puis pour son second enfant, qui est un peu plus autonome, lui laisser un peu plus d'autonomie et lui ouvrir un peu plus de catégories.
Moi, j'ai une question peut-être toute bête, mais qui paye ? C'est-à-dire que si l'enfant est tout seul sur le site et qu'à un moment, il voit un truc et que bing, il y a assez de sous sur le site, il peut payer et vider le compte et le payer des parents ?
C'est encore une démarche du parent, c'est-à-dire on peut lui ouvrir une cagnotte ou pas. Ça, c'est vraiment le contrôle. Et après, le cagnotage est fait par la famille et par les parents proches, donc ceux qui sont agrégés dans le module famille. Et là, l'enfant peut enfin utiliser pour la première fois un moyen de paiement en ligne de manière sécurisée avant 12 ans. Et ça, c'est notre plus-value aujourd'hui.
Jean Fabre, vous êtes le président de PharmaVie. Vous êtes notre grand témoin du jour. Quel regard portez-vous sur cette solution In the Pocket ?
Déjà, moi, par nature et professionnellement parlant, parler d'accompagnement, d'encadrement et d'éducation, je pense que c'est quelque chose qui me parle et qui doit nous parler à tous. Voilà. Et après, à titre personnel, comme vous en doutez, je suis plus près d'être... Je suis grand-père plutôt que père.
On est toujours père.
On a compris que les grands-parents peuvent aussi apporter des sous dans le cagnotage.
Et donc,
là, vos petits-enfants, ils doivent se dire, allez papy, vas-y.
C'est pour ça qu'en préparant l'émission, nous avons discuté. Je pense que c'est... quelque chose qui permet aussi d'accompagner ces jeunes dans ces nouveaux outils où aujourd'hui, l'éducation qu'on faisait, qui était en réel, eh ben, elle peut se faire aussi via ces biais. Et je trouve que c'est assez original et j'étais assez surpris. Alors,
donc vous validez?
Ah oui, je valide à titre personnel et à titre professionnel, je pense. Merci. Que ça interpelle.
Et Romain, vous avez besoin de sous? Vous êtes en pleine campagne
de levée
de fonds.
Oui, c'est ça, on fait notre première levée de fonds. Donc en fait, comme on l'a dit, il y a un plug and play qui va sortir, qui va permettre non plus d'être nous un e-commerçant, mais de pouvoir permettre de faire le contrôle parental dont on a parlé sur les e-commerce. Donc n'importe quel e-commerçant pourra télécharger l'application.
Vous avez besoin de combien ?
Donc là, aujourd'hui, on cherche 400 000 euros.
400 000 euros. Merci à vous, Romain Perroux. Vous êtes le cofondateur de In The Pocket. Merci d'être venu dans la France.
Merci à vous.
Et merci beaucoup à Nathalie Carré qu'on retrouvera demain. Et si vous aussi, vous voulez venir présenter votre entreprise, une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et comme ça, vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats ou de nos candidates en route pour les trophées Europe 1, La France Bouge.
Jean Fabre, vous restez encore un petit peu avec nous ?
Avec plaisir.
Vous êtes le président de PharmaVie, notre grand témoin du jour.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et La France Bouge, nous sommes toujours en direct avec notre témoin du jour, Jean Fabre, qui est le président de PharmaVie, l'un des plus gros regroupements de pharmacies de France, un peu plus de 600 pharmacies.
Et chaque jour, nous mettons en avant les entreprises qui placent le bien-être, l'humain, au cœur de leurs préoccupations. Bonjour Clémentine Cuche.
Bonjour.
Vous êtes la chargée de la communication digitale chez Logitrade. Là aussi, vous êtes basée à Montpellier. Il y a beaucoup de Montpelliérains aujourd'hui dans la France Bouge. Vous êtes spécialisée dans l'externalisation des achats, une entreprise qui existe depuis 25 ans, plus d'une centaine de salariés. Et si vous êtes en direct dans la France Bouge, dans Demain au Travail, c'est parce que ça fait un an que vous êtes en télétravail. Et vous vous êtes demandé comment pourriez-vous dynamiser les équipes et surtout les ressouder. Ainsi, vous avez fait appel à une start-up Huntingtown qui propose un escape game virtuel. Ça se passe comment ?
Alors oui, c'est ça. En fait, on a eu une réflexion en interne, très honnêtement, sur le devenir de nos collaborateurs en télétravail et justement quels étaient les outils à notre disposition à ce moment-là. Et c'est vrai que voilà, on s'est porté vers un think tank. Donc comment ça fonctionne réellement? Donc en fait, nous on a choisi le tour du monde. Donc en fait, qui est une immersion totale dans plusieurs pays. Donc en fait, on a fait des équipes. Donc c'est vrai qu'on est plus de 100 personnes effectivement. On a des agences un peu partout en France. Donc on a récolté tous les nouveaux collaborateurs qui étaient arrivés aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'arrivées entre temps, donc c'est des personnes qu'on n'a pas vues physiquement. Donc l'idée c'était vraiment de créer du lien aussi, hein, entre ces nouveaux arrivants et les personnes qui étaient là avant le télétravail.
Mais concrètement, comment il se passe ce tour du monde alors?
Alors concrètement, donc on est devant en visio, voilà, on a un roadbook, voilà, où en fait on a des liens Google Street View. Et en fait, on doit résoudre des énigmes à travers justement Google Street View. On doit chercher, par exemple, qu'est-ce qui est écrit sur un panneau. Donc voilà, donc ça prend du temps.
Mais on fait ça sur le temps du travail, par exemple, on a une heure par semaine où on se dit, hop, c'est l'heure escape game.
Alors non, nous on a monopolisé une matinée, parce qu'il y avait aussi une partie institutionnelle. Non, pas par semaine. Non, c'était vraiment un événement dédié à ça, et du coup ça s'est fait sur une demi-journée.
Et quel bilan vous en retirez alors?
Alors le bilan, du coup moi j'ai fait un retour d'expérience des collaborateurs, hein, toujours dans une démarche d'amélioration, et là on a atteint un taux de satisfaction qui est à 97,9%.
A priori tout le monde est content.
Les 1%, je me demande où sont les 1%, peut-être les absents, ceux qui n'ont pas réussi à se connecter, je ne sais pas. Mais voilà, donc non, dans l'ensemble ça a été très positif.
Donc ça a du bon de mobiliser les équipes dans cette période en télétravail, de faire en sorte qu'il y ait des challenges.
C'est ça. Non, ça a du bon. Ça dynamise les équipes, ça crée du lien. C'était nos enjeux, hein, très honnêtement. Et nous, les collaborateurs sont en demande, hein, d'en refaire. Donc voilà.
Eh ben, merci à vous, en tout cas, Clémentine Cuche. Hein. Je rappelle que vous êtes la chargée de la communication digitale chez Logitrade. Jean Fabre, chez PharmaVie, 600 pharmacies, comment on fait en sorte que le personnel reste soudé au fait des escape games dans la pharmacie? Ça se passe comment?
Franchement, non.
J'imagine.
Et aujourd'hui, on est, en première ligne.
Bien évidemment.
Avec tous les services, les nouveaux services, la vaccination, les autotests,
on n'a pas le temps.
Mais par contre, je trouve que quand même, l'idée est intéressante, parce qu'aujourd'hui, on parle du télétravail, mais c'est un télétravail subi.
Oui. Bien sûr.
Avec des conditions un peu particulières. Donc aujourd'hui, les gens, paradoxalement, travaille beaucoup plus.
Eh bien,
donc,
merci.
Belle idée.
Merci beaucoup, en tout cas, Jean Fabre. Je rappelle que vous êtes le patron de PharmaVie. Un grand merci de nous avoir accompagnés pendant toute cette heure sur Europe 1.
Emmanuel, nous, on se retrouve demain et on va partir.
On va partir à Paris 2. C'est quoi Paris 2? Parce que quand on est parisien, on connaît. C'est l'un des plus grands centres commerciaux de France. Pourquoi on y va? Parce qu'ils sont fermés. Émission de soutien pour voir comment ils sont en train de se réinventer, comment ils sont en train de préparer l'avenir. Donc dans un des plus grands centres commerciaux de France. On sera sur place, plus de 100 000 mètres carrés.
À demain, restez sur Europe 1. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.